Chers amis des cellules, bonsoir. Je vous propose aujourd'hui de méditer sur une partie de l'évangile que nous allons entendre dimanche prochain. C'est dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 9, les versets 47 à 48. Écoutons le texte. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Fin de la lecture. Commençons par préciser un élément de vocabulaire. Lorsque, dans la Bible, on parle de scandale, cela ne recoupe pas le mot moderne qui évoque surtout l'indignation bruyante face à un comportement réprouvé. Un scandale, c'est quelque chose qui fait tomber, c'est quelque chose qui fait pécher, c'est quelque chose qui entraîne à pécher. Si l'on dit « tu es pour moi un scandale », ça signifie que tu m'entraînes à pécher, que tu m'entraînes à faire le mal, que tu me pousses à désespérer de Dieu et de son alliance. Comment est-ce qu'on entraîne quelqu'un à pécher? Parfois, par notre comportement, on essaie de faire de l'autre notre complice. J'organise un vol et je demande à quelqu'un d'y participer avec moi ou de me couvrir. Je peux aussi entraîner quelqu'un à pécher en nourrissant son esprit d'enseignements faux ou mensongers. Si je fais croire à quelqu'un qu'un esclave n'est plus un être humain, alors cette personne ne le respectera plus. Si je fais croire à quelqu'un qu'un embryon n'est qu'un grumeau cellulaire et qu'il n'est pas un être humain, alors je n'aurai plus à le respecter non plus. L'enseignement mensonger, en entraînant la confusion ou en provoquant un aveuglement, du coup donne les conditions du péché. Je peux aussi apparaître comme un obstacle à recevoir un bon enseignement ou un obstacle pour quelqu'un à recevoir le pardon. Je le détourne de la vérité, je le détourne des occasions d'entendre la vérité. En faisant qu'il n'ait plus le temps, en faisant qu'il ne puisse pas rencontrer quelqu'un qui pourrait lui parler de la vérité. Je peux désespérer quelqu'un aussi en lui faisant croire que pour lui, après ce qu'il a fait, il n'y a plus de pardon. Jésus manifeste dans ce passage que entraîner quelqu'un à pécher, le conduire à pécher, est un acte particulièrement grave. L'image qu'il prend pour en parler est quand même saisissante. Il dit qu'il vaudrait mieux, plutôt que de causer un scandale, que d'entraîner quelqu'un à pécher, être jeté à la mer avec une meule de pierre attachée au cou. Jésus nous invite donc à être attentifs à la façon dont sont perçus nos actes. Nos actes, nos actions en public ont une conséquence sur les autres, et nous ne pouvons pas y être complètement indifférents. Nos actes ont une portée qui va au-delà de nous-mêmes. Si un chrétien se conduit mal, c'est d'une certaine manière tous les chrétiens qui seront soupçonnés de mal se conduire. De la même façon que si un prêtre se conduit mal, c'est tous les prêtres qui sont soupçonnés de mal se conduire. Nous devons avoir conscience que nos actes ont une portée qui va au-delà de nous-mêmes. Mais Jésus ne se contente pas de déplorer les scandales, Jésus ne se contente pas de mettre en garde celui qui serait occasion de chute, qui entraînerait les autres au péché. Il nous invite à prendre des mesures pour briser l'habitude du péché. L'appel est radical. Ce sont des images de mutilation, une main coupée, un pied coupé, un œil arraché. Cependant, la tradition de l'Église a très vite précisé que Jésus n'appelait pas à s'auto-mutiler. Il y a le cas célèbre du père de l'Église Origène qui s'était castré du fait de ses difficultés avec la chasteté, mais son acte n'a pas été jugé juste ou adéquat. Comment comprendre l'appel de Jésus alors? Premièrement, les mesures à prendre seront onéreuses, ce sera un effort. Entre parenthèses, de la même manière que dans toute rééducation, il y a un effort. Pensez au jour où vous vous êtes cassé un bras et où, après que l'on vous a retiré le plâtre, il a fallu rééduquer ce bras. Ça a demandé un effort. Les images qu'utilise Jésus nous donnent aussi trois points d'attention. La main, le pied, l'œil. La main, c'est ce que je touche, c'est ce que je m'approprie, c'est ce que je garde à portée. Et donc il y aura un examen d'éloigner de ma main, de ne pas garder à portée ce qui me conduit à pécher. Le pied, c'est ce qui me permet de marcher, c'est du coup l'attention à là où je vais. Il y a des lieux, il y a des situations qui m'entraînent à pécher. C'est parfois en allant à tel lieu et en restant avec telle personne que je me retrouve impliqué dans une médisance sans fin, à parler en mal des absents. Il y aura donc une vigilance à ne pas aller là où je suis en danger et à vérifier que je suis là où je dois être. L'œil, c'est ce que je contemple. Sur quoi est-ce que je pose mon regard? Assurément, il y a parfois des choses qui me passent devant les yeux sans que je les aie choisies, mais il y a d'autres fois où j'ai choisi de jeter un coup d'œil, de regarder d'un peu plus près, de m'approcher pour voir un peu plus nettement. Et là, j'engage ma liberté, et donc ma responsabilité. L'œil qui contemple, c'est aussi parfois les souvenirs. On peut garder dans un recoin de sa mémoire tel ou tel événement qui n'est pas très net, et qui nourrit des désirs déviants. Arracher l'œil, c'est parfois renoncer justement à aller rechercher ces souvenirs qu'on gardait comme dans un tiroir, mais un tiroir bien identifié. Il nous faut parfois nous engager avec la grâce de Dieu à dire « je renonce à ce souvenir, je renonce à réévoquer tel ou tel comportement, telle ou telle contemplation ». Mais je crois utile de préciser encore un autre élément. De la même façon que pour se débarrasser d'une mauvaise herbe, il ne faut pas la couper n'importe comment, sinon elle repoussera de plus belle. De la même façon, couper une habitude qui nous entraînait à pécher ne se fait pas n'importe comment. Couper un désir mauvais ne se fait pas en coupant la capacité à désirer. C'est une erreur parfois où on imagine qu'il faudrait se rendre indifférent, insensible. Non, notre capacité à désirer fait partie de notre nature humaine. Il ne s'agit pas de couper, de casser notre capacité à désirer, mais de la réorienter, de la réorienter. Il faut réorienter le désir vers quelque chose de bon. Réorienter ce que je contemple vers quelque chose de bon, réorienter là où je vais vers quelque chose de bon, réorienter ce que j'ai en main vers quelque chose de bon. On ne combat pas une mauvaise habitude par le vide, mais en remplaçant la mauvaise habitude par une bonne. Si on avait pris une mauvaise habitude, c'est que quelque part on y trouvait un intérêt. Mettre le vide à la place n'aura rien de satisfaisant. Il faut substituer à la mauvaise habitude une habitude qui soit bonne et où je trouve un intérêt. Remarquons que pour mettre en place cette nouvelle habitude, nous disposons de temps. En effet, il s'agit d'être très pragmatique. Si ma mauvaise habitude me faisait perdre 4 heures, imaginez quelqu'un qui a une espèce de boulimie de télévision ou d'écran. Alors, quand je me sens tenté d'y retomber, je peux considérer que j'ai 4 heures devant moi. Ces 4 heures étaient perdues de toute façon, donc autant les utiliser à faire quelque chose de bon. J'ai 4 heures pour lire, 4 heures pour me promener, 4 heures pour contacter quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. À moi d'être inventif. Au terme de notre enseignement, retenons peut-être tout particulièrement 3 points. Le premier, souvenons-nous que nos actes nous engagent au-delà de notre propre personne. Comme chrétiens, nous engageons d'une certaine manière tous les chrétiens. Deuxièmement, rompre avec une mauvaise habitude, ça signifie être attentif à la main, ce que je touche, ce qui est à ma portée, le pied, là où je vais, l'œil, ce que je contemple, mais également ce que je contemple avec mes souvenirs. Troisième point, on ne se débarrasse pas d'une mauvaise habitude par le vide, ni en essayant de casser la capacité à désirer, mais en mettant en place une nouvelle habitude, une habitude bonne, une habitude où l'on trouve de l'intérêt. Je vous souhaite de bons échanges.